RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, depuis des années, l'actualité est ponctuée de naufrages tragiques en Méditerranée. Cette mer est devenue un véritable cimetière, mais un cimetière d'anonymes. Alors en Italie, une femme cherche à connaître l'identité de chaque noyé. Cristina Cattaneo est médecin légiste à Milan. Elle a écrit un livre sur son travail, ça s'appelle « Naufragé sans visage ». Franceline Beretti est allée à la rencontre de son équipe au service des morts. Les morts en disent plus que les vivants. Identifiés, les victimes des naufrages en Méditerranée. Grand reportage, signé donc Franceline Beretti.
Cristina Cattaneo est chercheuse depuis plus de 20 ans au Labanoff, le laboratoire de médecine légale d'une grande université milanaise. Elle enseigne et elle pratique des autopsies. Dans son sous-sol, sous l'éclairage artificiel, une partie de sa routine consiste à identifier des cadavres anonymes. Mais depuis 5 ans, elle et son équipe s'occupent de morts particuliers. Les murs en témoignent.
Ça, c'est un tableau offert par un artiste allemand qui a entendu parler de ce qu'on fait. Ce triptyque représente Aylan avec de la colle et du sable. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
Si, si, je m'en souviens de ce petit garçon syrien retrouvé sur une plage turque, je crois.
L'artiste nous a dit « Je ne suis pas connu, mais je vous offre cette œuvre parce que vous faites un très beau travail. Et peut-être un jour, si je deviens célèbre, vous pourrez la vendre et utiliser l'argent pour votre cause. »
Le travail de Cristina Cattaneo, en ce moment, c'est d'identifier les migrants morts en Méditerranée. C'est la première à le faire et la seule. En Europe, les autorités fournissent tous les efforts possibles pour reconnaître les victimes en cas de catastrophe. Pensez à n'importe quel crash aérien, à tous les moyens déployés pour retrouver les boîtes noires, les corps, comprendre pourquoi, informer les proches. Mais les morts de la Méditerranée ne suscitent pas autant d'activité.
Il y a un niveau de discrimination que je n'avais jamais observé avant. On parle de dizaines de milliers d'individus enterrés pour la plupart anonymement. Et personne n'a levé le petit doigt pour dire il faut leur donner un nom à eux aussi. Il y a un droit des morts. Avoir un nom sur sa tombe, ça devrait être sacré. Mais c'est vrai que parfois, tu ne peux pas te permettre ce luxe quand ils sont trop nombreux. Mais là, on ne parle pas seulement des morts. On parle du droit des vivants qui sont derrière et qui n'ont même pas la certitude que leurs proches sont décédés. C'est tellement énorme, cette violation. Mon métier te montre très clairement les différences sociales. Notre comique national, Toto, disait que la mort nous rend tous égaux, mais c'est totalement faux. Dans le cas de ces migrants, on voit à quel point on peut mépriser la dignité humaine.
D'après l'Observatoire international des migrations, 14 000 personnes se sont lancées dans la traversée de la Méditerranée sans jamais atteindre l'autre rive ces 5 dernières années. Régulièrement, les petites embarcations et leurs passagers disparaissent au fond de la mer et de la mémoire collective. Mais parfois, les bateaux sont plus gros, comme celui du 3 octobre 2013.
Bonsoir à tous. Dans le journal, ce soir, l'Europe était leur terre promise. 130 migrants en provenance d'Afrique ont péri noyés au large de l'Italie. Le navire a fait naufrage à 2 km des côtes.
L'embarcation transporte environ 600 passagers. Ça n'est pas qu'un naufrage de plus. L'ampleur du désastre fait bouger les lignes. La marine italienne lance son opération humanitaire Mare Nostrum. Et à son échelle, au Labanoff, Cristina Cattaneo veut donner à ses morts le traitement qu'ils méritent. Elle doit commencer par convaincre ses troupes. Danilo De Angelis est odontologue, spécialiste des dents. Il fait partie des sceptiques.
Ma première réaction, ça a été « Oui, c'est une chose qu'il faut faire, bien sûr, mais sommes-nous en mesure de réussir ce défi, de gérer une situation aussi énorme ?» Pour nous, il n'y a évidemment aucune différence entre identifier un Italien, un Européen ou un Africain. Ça ne change absolument rien dans notre travail, mais on savait qu'avec le contexte sociopolitique, eh bien, les gens pourraient mal interpréter ce que nous voulions faire ou ne pas comprendre. Donc j'avais le sentiment que pour organiser ce travail, ça n'allait pas être si simple.
C'est d'abord un défi logistique. Les corps ne dépendent pas de la même autorité. Ils sont retrouvés dans des zones administratives différentes, en Sicile ou dans le sud de l'Italie. Les procédures varient pour les enregistrer, les récupérer. Puis, c'est un défi financier. Il faut tout faire sans aucun budget supplémentaire. avec la vague d'arrivée des migrants en Italie, même les plus ouverts préfèrent se concentrer sur les vivants plutôt que sur les morts. Mais l'équipe décide de se lancer.
Pour identifier ces victimes, il faut avoir les profils biologiques, c'est-à-dire le plus d'informations possible à partir du corps de chaque mort. Imaginons qu'on fait une autopsie. On connaît alors la race, l'ethnie, l'âge, les tatouages, les fractures, jusqu'au profil génétique. Tout ce qu'on appelle les données post-mortem, après la mort. Mais pour identifier ces morts, il faut aussi des informations qui viennent de la famille, des proches, qui racontent cette personne quand elle était vivante. Ce sont les données ante-mortem, avant la mort. D'habitude, dans une catastrophe normale, le frère ou la femme apporte des photos, des dossiers médicaux, des radiographies, l'ADN de la brosse à dents. Et alors, les données antémortem du vivant sont comparées aux données post-mortem de tous les morts.
Une fois le travail réalisé sur les morts, il faut contacter les vivants, des proches restés dans le pays d'origine ou déjà dans la diaspora d'un autre pays ou quelque part en transit. C'est compliqué, mais le réseau des consulats et des organisations humanitaires fait passer le message. Les Érythréens installés en Europe sont mis au courant de la démarche plusieurs mois après le naufrage. Christina Cataneo se souvient encore de leur réactivité.
I parenti si sono palesati dall'Inghilterra, dalla Svizzera, dalla Svezia.
Les familles se sont manifestées depuis l'Angleterre, la Suisse, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la France et l'Italie bien sûr. Ils sont tous venus à leurs frais. Beaucoup ont dormi sur les quais de gare. Ceux qui sont venus en voiture ont dormi dedans. Tout ça pour apporter des photos, raconter l'histoire du disparu, ses interventions médicales, etc. Certains étaient des amis, pas de la famille. Par exemple, quand les parents étaient des personnes âgées qui ne pouvaient pas faire le voyage. Ces amis apportaient des fragments d'ongles des parents, pensant que ça pouvait être utile, pour dire à quel point ils tenaient à tout faire pour réussir à identifier leurs proches.
À chaque entretien, une histoire singulière. Cette tante, à la recherche de son neveu Samuel, fraîchement diplômé et tout sourire sur les photos. Cet oncle sans nouvelles de sa nièce, partie parce qu'elle avait décroché une bourse d'études pour une prestigieuse université européenne. Ces rencontres sont inoubliables. Certaines sont incroyables, comme celle avec cette jeune érythréenne.
Elle est venue depuis la Suède. D'habitude, quand ils s'en sentent capables, on leur montre les photos des visages des cadavres pour voir s'ils reconnaissent leurs proches. Dans ce cas précis, elle n'a pas reconnu son frère parmi les jeunes hommes. Mais elle a voulu voir les effets personnels. Elle regarde un bout de papier et dit « Ça ressemble à l'écriture de mon frère ». Elle observe de plus près et reconnaît son numéro de téléphone à elle, noté à la main par son frère.
Sur les centaines de victimes, à la fin, 35 sont identifiées. Ça paraît peu, mais c'est énorme. Pour la moitié des familles officiellement à la recherche d'un disparu, le travail de deuil peut enfin commencer. Les autres n'auront jamais la certitude de la mort. Pour la catastrophe de Lampedusa, les corps ont été rapidement autopsiés par la police avant d'être enterrés en Sicile. Les données post-mortem sont nombreuses. Mais parfois, le travail est plus difficile. Parfois, il ne reste que les os. Le 18 avril 2015, un autre drame endeuille la Méditerranée. Une tragédie inédite par son ampleur, par son horreur.
C'est un très long travail. Les témoignages parlent d'environ 1000 victimes. On arrivera probablement à avoir entre 700 et 800 personnes représentées. Mais il n'y a pas beaucoup d'éléments correspondant à des corps bien définis. Ce sont des ossements mélangés. Techniquement, c'est très difficile de reconnaître le profil biologique pour chaque os.
Le naufrage a lieu à 110 km des côtes libyennes. Quelques corps, rares, sont bien conservés et autopsiés de façon classique. Mais les victimes sont surtout représentées par les 20 000 os récupérés dans l'épave. Scientifiquement, c'est une première. Ah, c'est intéressant cette pancarte. Bienvenue au paradis.
C'est le cadeau d'une amie qui travaille pour la Croix-Rouge internationale. Elle est anthropologue, elle vient du Guatemala. Pour elle, voir un laboratoire avec tous ces os et tous ces gens qui cherchent à identifier ces morts, c'est une sorte de paradis.
C'est un peu bizarre pour les gens normaux.
Bien sûr, mais personne n'est normal ici.
Pour essayer de retrouver l'identité de chaque migrant à partir de ces dizaines de milliers d'os, Des volontaires viennent du monde entier.
Là, c'est la salle des étudiants. Pranavan vient du Sri Lanka, de Colombo. Il est là pour un an. Ludovico, le thésard, qui a froid, bien sûr. Federica, qui vient de l'université de Naples, mais elle est de Salerno. Et elle tient à souligner ce détail. Elle est avec nous pour quelques mois pour travailler sur les squelettes. C'est un médecin légiste en formation. Lara vient spécialement pour ce travail sur les migrants depuis la Suisse.
L'étudiante en blouse blanche est attablée devant une vingtaine d'ossements et un ordinateur.
Ici, on a un sac rempli de restes de migrants. Ils sont mélangés. Il n'y a pas un seul individu, mais plusieurs. On essaie de déterminer les caractéristiques de chaque os, pour voir lesquelles peuvent être liées à une même personne. Ici, la plupart des os sont des vertèbres, de la zone thoracique et de la zone cervicale. Ça, par exemple, c'est la deuxième vertèbre. On le voit avec cette partie plus haute et plus dense. À côté, là, il y a des côtes et des os de pied. Je mesure chaque os, j'observe s'il a une particularité, je détermine l'âge de la personne, son sexe et d'éventuelles pathologies.
Ces informations sont entrées dans une base de données. Le logiciel identifie les os qui pourraient appartenir au même individu. Ensuite, cette hypothèse est validée ou pas par un test génétique. L'équipe plaisante volontiers sur son travail quotidien, à des années-lumière de ce que montrent les séries américaines où l'ADN est la réponse à tout. Pour le cas des réfugiés, il faut recourir à des méthodes un peu marginales, comme l'explique le chercheur Danilo De Angelis.
Ma thèse de doctorat en orthodontie porte sur l'identification d'un individu en comparant ses dents à des éléments photographiques. En 15 ans, mes recherches ont été très peu utilisées. En fait, pendant toutes ces années, j'ai appliqué seulement 5 fois ma méthode. Mais avec la tragédie des migrants, elle est devenue vraiment très utile. Ce qui me semblait une technique marginale est peut-être devenue la méthode la plus utilisée pour les identifier. D'habitude, surtout dans des désastres de masse qui concernent des citoyens occidentaux, on récupère les informations médicales, surtout du dentiste. En général, on compare les radiographies des mâchoires des cadavres à celles des personnes disparues. Dans le cas spécifique des migrants, il est très difficile, voire impossible, de récupérer des images médicales relatives aux dents. Ce sont les parents, les amis des migrants disparus, qui nous donnent des photographies. Imaginons la photo d'une personne disparue qui sourit. Peut-être qu'on voit une dent cassée, une dent refaite. Une caractéristique que nous allons ensuite rechercher sur le cadavre.
Les os ne sont pas tout ce qu'il reste des migrants. Il y a aussi toutes leurs affaires. Ces objets sont soigneusement lavés, séchés, archivés dans de petites boîtes blanches en carton. Mais une partie d'entre eux est encore sur les tables de travail. Cristina Cataneo.
Sono cellulari, ci sono questa, per esempio, questa è una rosa di tessuto.
Il y a des téléphones portables. Ça, c'est une rose en tissu avec un bracelet et un billet d'un dollar américain. Là, on a une brosse à dents avec un dentifrice. Et avec ça, je crois que c'est musulman, un rosaire musulman. Et ça, ce sont parmi les plus parlants, parce que ce sont les fameux sacs de terre.
Vous pouvez nous raconter votre réaction quand vous les avez vus la première fois?
Ah, ça restera dans l'histoire. Pendant la première autopsie avec un spécialiste de Catane, on déshabille un cadavre et on trouve sous le t-shirt un petit sac en plastique fermé. J'ai tout de suite pensé que ça pouvait être du hashish ou un autre genre de drogue. Et je me suis dit, mon Dieu, on commence mal. Vu que nous menons un combat dans un contexte plutôt hostile à ces personnes, ça aurait rendu les choses plus compliquées. Alors je me tourne vers le policier qui était derrière moi et je lui demande, qu'est-ce que c'est que ça? Et il répond, non, professeur, ne vous inquiétez pas. Ils transportent souvent de petits sacs avec la terre de leur pays, surtout les Érythréens.
Assolutamente normale. Questi sono i sacchettini che soprattutto gli Eritrei si portano dietro pieni della terra del loro paese.
Un combat dans un contexte plutôt hostile, c'est peu dire. Depuis les dernières élections, il y a un peu plus d'un an, l'électorat italien récompense les discours caricaturaux sur ces réfugiés. Certains responsables politiques ont comparé les bateaux des secouristes à des taxis permettant de passer d'une rive à l'autre de la Méditerranée. D'autres décrivent des navires remplis de criminels, des hommes résolus à apporter drogue, armes et violence en Italie. La médecin légiste voit tout autre chose dans les corps du 18 avril 2015. Gente che magari viene vituperata perché
non come noi, eccetera, eccetera, e l'ultimo corpo presenta questo. Des gens qu'on pointe du doigt parce que soi-disant pas comme nous, etc. Alors que ce dernier corps que nous avons autopsié avait sur lui une carte de donneur de sang. Ça montre l'altruisme de ce jeune homme et des cartes d'université et de bibliothèque qui prouvent sa volonté de lire et d'étudier. Les petits sacs de terre à la première autopsie et la carte de donneur de sang à la dernière, qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Si les gens sont ignorants au sens premier du terme, si tu ne sais pas qui sont ces migrants, parce que tu n'as pas moyen de le savoir à cause du système, ou parce que tu ne t'intéresses pas à eux, alors c'est facile de construire des murs. Si à l'inverse, tu commences à les connaître, c'est beaucoup plus difficile. J'espère qu'un jour, cette épave deviendra un musée ou quelque chose du genre, que les écoles permettront de la voir et de comprendre, un peu comme d'autres lieux de tragédie que l'on visite, comme les camps de concentration, pour ne pas oublier.
La chercheuse doit souvent faire de la pédagogie. Comme les bons sentiments ne font pas recette dans son pays, pas de grands discours moraux. Elle explique l'importance de son travail pour délivrer, par exemple, des actes de décès.
Pour des questions d'héritage, pour des questions administratives en tout genre, on a besoin de certificats de décès. Pas seulement nous, tout le monde. Ça ne dépend pas de la couleur de la peau, ça semble absurde de devoir le dire. Parfois j'ai honte, car je dis encore des choses comme « Tu vois, ça montre qu'ils sont comme nous ». Et d'un côté, c'est vraiment paradoxal. Mais il y a besoin de le dire, de le souligner, que nous sommes tous humains, surtout en ce moment.
Pour comprendre l'importance de ce travail, il y a aussi l'épave. L'épave de la tragédie du 18 avril 2015, sortie des eaux par la marine italienne et toujours dans une base militaire en Sicile. Cristina Cattaneo y est entrée pour superviser l'extraction des corps.
Bon, c'est difficile à décrire ou à se représenter. Cette superposition de corps, quasiment jusqu'au plafond. Des corps sur des corps sur des corps, tous tournés sur le ventre, en décomposition. Pour réussir à en extraire un, il fallait se faire un chemin et en piétiner d'autres. Quand tu mettais le bras sous un mort, tu sentais qu'il y en avait un autre dessous et encore un autre. Quand les pompiers ont sorti toutes les victimes, il restait encore ce petit espace fermé pour recueillir l'eau du bateau. Un espace de 40 cm de haut. Il y avait des squelettes de jeunes hommes, même là. Ça veut dire qu'ils sont partis comme ça. Ils ne seraient probablement pas arrivés vivants, même s'il n'y avait pas eu de naufrage. Ces garçons avec des dattes dans les poches pour survivre au voyage, c'est la représentation de ce que risquent ces personnes. C'est pour ça que les morts sont plus éloquents que les vivants. Si tu te fais raconter le voyage par un vivant, il te racontera toute la tragédie qu'il y a derrière, le dégoût, la terreur. Mais avec la vision toujours de quelqu'un qui a survécu, qui a vécu une chose terrible, mais qui s'en est sorti. Et là, on n'oublie plus jamais ceux qui n'ont pas réussi. Però è filtrato sempre da qualcuno che ce l'ha fatta. È passata una roba brutta, ma ce l'ha fatta. E lì viene immortalato chi non ce l'ha fatta. Les naufrages des migrants en Méditerranée ne sont pas une seule catastrophe, bien localisée dans l'espace, circonscrite dans le temps. C'est une série de drames éparpillés, espacés, qui disparaissent vite de nos mémoires. La mobilisation de chercheurs, de militaires, de pompiers, de centaines de personnes qui se battent en Italie pour ne pas oublier les victimes est un symbole très puissant. Mais c'est plus que cela. En faisant ce travail, ces volontaires sont résolument du côté des vivants. À Milan, Franceline Beretti pour RFI.